Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Nous prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de commencer ce cours, toujours sur l'évangile selon saint Marc, d'après les pères de l'Église, deux petites notes concernant le site. D'abord, je vous rappelle que j'ai mis sur la page d'accueil du site un lien pour pouvoir que vous puissiez atteindre la liste des retraites pour 2020. Donc, il y aura 6 retraites. Les deux premières retraites sont déjà complètement pleines. Je ne peux plus accepter de personne, ni pour la première retraite, ni pour la deuxième. Donc, il reste 4 retraites à remplir, qui commencent déjà à se remplir, pour certaines d'entre elles, surtout la dernière, entre autres. Donc, n'attendez pas le dernier moment. Essayez de venir faire la retraite. Il est bon de faire la retraite une fois par an, une fois tous les 2 ans, pour justement se rapprocher du bon Dieu, plus facilement. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Deuxièmement, je vous rappelle que beaucoup des conférences qui sont sur le site sont maintenant également sur YouTube, grâce à un ami qui fait tout ça généreusement. Il prend beaucoup de son temps pour s'occuper de ce site sur YouTube. Donc vous avez beaucoup de choses. Je vais commencer maintenant d'autres conférences qui sont sur le site sous l'onglet « Conférences doctrinales » qui se retrouve aussi sur YouTube. Donc j'ai mis entre autres 3 nouvelles conférences, je vous l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, les conférences que j'ai données à Besançon la semaine dernière. Donc vous pouvez les avoir et j'en remettrai d'autres, donc n'hésitez pas à utiliser ces conférences pour vous former. Nous en sommes donc dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 2 sur le polycopier, donc polycopier qui couvre les chapitre 1 à 5 de saint Marc. Nous en sommes à la page 15 de ce polycopier. Donc nous en sommes au chapitre 2 de saint Marc, au verset 18, jusqu'au verset 22. C'est la section que nous allons étudier maintenant, d'après les pères de l'Église. Or, les disciples de Jean, c'est Jean-Baptiste dont il s'agit, les disciples de saint Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, étant venus lui dire « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que vos disciples ne jeûnent pas ?» Il parle à notre Seigneur. Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieux vêtement. Autrement, la pièce du drap neuf l'emporte une partie du vieux, la déchirure devient plus grande. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement le vin rompra les outres, et le vin se répandra, et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. » Bon, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église de ce texte un peu compliqué de notre Seigneur en saint Marc chapitre 2. Donc, si Jésus-Christ jeûne, c'est afin de ne pas éluder le précepte. S'il mange avec les pécheurs, c'est pour faire éclater à la fois sa miséricorde et sa puissance. N'oublions pas ce qui a déjà été expliqué quelques versets auparavant, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les malades, en tant que médecin des âmes, donc il va surtout s'occuper des gens qui ont le plus besoin de lui. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ accepte d'aller... Excusez ce téléphone. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ étant venu d'abord pour les pauvres, les malades, va s'occuper tout spécialement de ceux qui ont le plus besoin de lui. C'est pour ça qu'il va accepter d'aller chez les pharisiens et même chez les publicains qui avaient pourtant très mauvaise réputation en Palestine en son époque. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser sa miséricorde d'abord et avant toute chose, encore une fois, avec ceux qui en ont le plus besoin. Même au risque de scandaliser ses propres disciples. D'ailleurs, on le voit ici, les disciples de Saint Jean-Baptiste ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils interrogent notre Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va essayer de leur faire comprendre donc qu'il est l'époux. Il s'appelle l'époux parce qu'il doit prendre l'Église pour épouse. Ses épousailles, ce sont les arts qu'il a donnés, c'est-à-dire la grâce de l'Esprit-Saint qui a conquis à la fois l'univers entier. Et les pères précisent, il s'appelle encore l'époux, non seulement parce qu'il s'unit les âmes virginales, mais encore parce que le temps de son premier avènement n'est point pour ceux qui croient en lui un temps de douleur, de tristesse et de travail pénible, mais un temps de repos. Il nous affranchit ainsi des œuvres légales et nous donne le repos par le baptême qui nous sauve sans aucun travail de notre part. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ utilise une comparaison, de même que une femme va mettre un enfant dans la douleur, de la même façon, dans la famille catholique, les âmes vont s'approcher du bon Dieu, eux aussi, dans la douleur. Il va y avoir un temps de douleur, un temps de tristesse, un temps de travail de repos, un temps de travail pénible, mais cela amène au repos en notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Et ce repos, il l'associe au baptême. Il nous donne le repos par le baptême qui nous sauve sans aucun travail de notre part. Mais le baptême nous fait correspondre davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ veut le repos de nos âmes, mais ça passe par la croix. C'est ça le grand mystère. C'est le mystère de la croix qui nous permet d'accéder aux grâces que le bon Dieu a promis pour chacun d'entre nous. Ces arts dont il parle ici, les arts en quelque sorte mystiquement qu'il utilise pour payer, acheter son épouse, sont le prix, et c'est représenté par le prix de la passion. Et il faut passer par ce prix de la passion pour pouvoir accéder au repos que le bon Dieu nous promet. Ainsi, les conviés aux noces ou les amis de l'époux, ce sont les apôtres, disent les pères, qui, par la grâce de Dieu, sont devenus dignes de tous les biens célestes et rendus participants d'un bonheur sans mesure. Donc il les appelle fils de l'époux, parce qu'en effet ils sont encore enfants, et qu'ils ne peuvent en cette qualité se conformer pleinement à leur époux et à leur père, qui, eu égard à la fragilité de leur âge, les dispense de l'obligation du jeûne. Donc Dieu, dans les sacrifices qu'il nous demande, va tenir compte du degré d'amour que nous avons pour lui, du degré de connaissance que nous avons de Dieu. À un enfant, à un bébé, à un nourrisson, on donne du lait. On ne commence pas tout de suite à lui donner la nourriture solide. C'est la même chose avec notre Seigneur. Notre Seigneur, lorsqu'il s'occupe d'un bébé qui vient d'être baptisé, il va donner ce lait spirituel. De la même façon que la maman ne va nourrir son nourrisson qu'avec son lait maternel. Justement parce qu'il n'est pas capable de digérer autre chose. Mais avec le temps qui passe, l'estomac, si vous voulez, du nourrisson va se transformer pour pouvoir justement accepter un autre type de nourriture. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc au début, le bon Dieu nous donne en quelque sorte du sucre. Et puis petit à petit, il va nous faire participer à sa passion. Il va nous faire passer par toute une série de points de passage obligatoires afin de nous amener au ciel. Ce qu'on appelle les trois voies. Donc il va y avoir d'abord la voie purgative, puis la voie illuminative et enfin la voie unitive. Et à chaque passage d'une voie dans l'autre, eh bien, il va nous faire passer par des épreuves qui peuvent être très très fortes, ce qu'on appelle la nuit des sens, point de passage entre la voie purgative et la voie illuminative, puis la nuit de l'esprit, point de passage entre la voie illuminative et la voie unitive, la voie mystique. Donc ne nous étonnons pas. Si pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, bien, il faut parfois jeûner, il faut parfois faire pénitence, parce que justement, le bon Dieu, par ses pénitences, nous fait perdre notre attachement à notre volonté propre. Alors, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était là, c'était évidemment beaucoup plus facile pour les apôtres parce qu'ils voyaient les propres miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, aujourd'hui, en 2019, c'est nettement plus difficile. Pourquoi ? Parce que nous ne voyons pas avec les yeux, nos yeux physiques, nous ne voyons pas les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut utiliser notre foi. Les apôtres, ils voyaient notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, on ne voit rien. On ne le voit pas. Même lorsque nous communions, nous savons par la foi catholique que cette hostie est la substance, l'hostie consacrée est la substance même du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on ne voit ni sa nature divine, ni sa nature humaine. Les apôtres, eux, voyaient au moins la nature humaine de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il faut une foi beaucoup plus forte pour nous, pour, bien que nous ne voyons ni la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, ni sa nature physique, nous sachions à cause de la certitude que nous donne la foi, que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment notre Créateur, notre Rédempteur, et qu'il nous a promis que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Donc il nous donnera les grâces dont nous avons besoin au jour le jour. Donc, après le départ de l'époux, ils regretteront de l'avoir perdu, ils jeûneront alors. Toutefois, lorsqu'ils auront atteint la perfection, qu'ils seront unis à l'époux dans des noces toutes célestes, alors ils savoureront éternellement les mets du royal festin. C'est pour cela que la dernière voie, le dernier étage, si vous voulez, de cette montée vers le bon Dieu, c'est la voie mystique, la voie unitive. Mais la voie mystique et la voie unitive sont parfois appelées par les grands docteurs le mariage spirituel. Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à un mariage. Le mariage représente beaucoup de choses, ce mariage spirituel. Ça représente d'abord l'union de la divinité, de l'humanité, par le moyen de l'union hypostatique en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous montre aussi le chemin que nous devons nous-mêmes suivre pour arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chemin, il passe par la croix, il passe par la passion. Tout homme qui fait le bien est donc ami de l'époux, possède avec lui l'époux qui est Jésus-Christ et il ne jeûne pas. C'est-à-dire il ne se livre pas aux œuvres de pénitence parce qu'il ne pêche pas. Mais quand l'époux est enlevé à celui qui tombe dans le péché, cet homme jeûne alors et fait pénitence pour la guérison de sa faute. C'est encore un sens mystique assez élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je vous l'ai déjà expliqué souvent, qu'il n'y a que deux voies pour aller au ciel. Soit la voie de l'innocence, soit la voie de la pénitence. La voie de l'innocence ne peut être utilisée que par ceux qui n'ont jamais péché. C'est le cas des bébés qui meurent juste après le baptême. Pour eux, ils peuvent utiliser la voie royale, la voie très rapide qui mène au ciel, qu'on appelle la voie de l'innocence. On les appelle les voleurs de paradis parce qu'eux, ils vont arriver au paradis sans avoir à combattre. C'est une exception. Mais dès qu'on a commis un péché, même un simple péché véniel, après le moindre péché, la voie de l'innocence nous est définitivement fermée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre sur le chemin qui mène au bon Dieu, mais on ne peut plus utiliser le même chemin qu'on pourrait utiliser si nous n'avions jamais péché. Donc la voie de l'innocence est fermée définitivement pour tous ceux qui ont péché. La voie de pénitence reste ouverte. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, ne permet pas qu'un pécheur soit complètement abandonné. Donc si le pécheur fait pénitence, il se confesse, il peut utiliser à ce moment-là la voie de pénitence pour monter au ciel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pécheur ne peut plus utiliser la voie d'innocence parce qu'elle est définitivement fermée. Beaucoup de gens pensent qu'en se confessant, on va récupérer la voie d'innocence. Non, la voie d'innocence n'est utilisable que par ceux qui n'ont jamais péché. Après le moindre péché, la voie d'innocence est définitivement fermée. Cela doit nous faire comprendre la gravité du péché et nous aider à ne pas rester dans le péché, parce qu'il est évident que plus on reste dans le péché, plus la pratique de la pénitence sera nécessaire pour pouvoir nous remettre sur le chemin qui mène au bon Dieu. C'est pour ça que cette phrase est très belle, je l'ai mise en gras justement dans le polycopié. Quand l'époux est enlevé à celui qui tombe dans le péché, cet homme jeûne alors et fait pénitence pour la guérison de sa faute. Ça veut dire que lorsqu'on est en état de grâce, l'époux est avec nous. Donc si l'époux est avec moi, tant que l'époux est avec moi, je peux jouir de la présence de l'époux. L'époux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si je commets un péché, l'époux s'en va tout de suite. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas rester dans une âme qui a commis un péché grave. Et donc il s'en va. Et pour récupérer la présence du bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à ce moment-là jeûner, parce que la vertu de pénitence est absolument nécessaire pour retrouver ce contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Saint Bède le Vénérable explique les choses mystiquement, voilà le sens qu'il donne à ces paroles de notre Seigneur. Les disciples de Jean, Saint Jean-Baptiste, et les pharisiens jeûnent, parce que l'homme qui, sans la foi, se glorifie dans les œuvres de la foi, qui suit les traditions humaines, qui ne prête aux oracles du Christ que l'oreille du corps, plutôt qu'un cœur animé par la foi, celui-là se prive aussi des biens spirituels, se dessèche et dépérit par suite de ce jeûne intérieur. Donc le jeûne a pour but de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si je n'ai pas compris ces choses-là, et que j'estime, j'espère toujours, je compte beaucoup trop sur moi-même et sur mon orgueil, eh bien à ce moment-là, ce jeûne va me faire dépérir complètement, parce que ça ne sert absolument à rien que je jeûne si je ne suis pas décidé à abandonner ma volonté propre pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Celui, au contraire, disent les pères, qui par un amour fidèle s'unit au corps de Jésus-Christ par la Sainte Communion, ne peut jeûner puisqu'il se nourrit avec délice de sa chair et de son sang. Il y a une image aussi qu'on retrouve dans les catéchismes, surtout dans les époques où les gens ne communiaient pratiquement que le dimanche. Eh bien, le dimanche, c'est le jour de la communion, donc on s'est confessé le samedi pour être vraiment bien en état de grâce pour le dimanche. Et le dimanche étant le jour de la communion, c'est le jour de l'union avec l'époux. Donc le dimanche, on ne jeûne pas. C'est pour ça que l'Église supprimait toutes les pénitences le dimanche. Même par exemple le dimanche, dans les prières de communauté, on supprimait les génuflexions. Parce qu'on supprimait les positions à genoux, plus exactement, parce que justement, le dimanche est un jour de joie, ça symbolise l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ compare ses disciples à de vieilles outres, et il déclare qu'ils sont incapables de contenir le vin nouveau, c'est-à-dire les préceptes spirituels qui les feraient éclater. Ce vin nouveau, c'est la grâce du bon Dieu. Les pères de l'Église comparaient souvent la grâce à du vin qui renforce le cœur de l'homme. Le vin, surtout chez les anciens, était un fortifiant, considéré comme un fortifiant, et donc de même que le vin va fortifier le corps, de même la grâce qui est représentée par ce vin va fortifier l'âme. Page 16 sur le polycopier. Mais ils deviendront des outres nouvelles lorsque, après l'ascension du Seigneur, ils seront comme renouvelés par le désir de ces divines consolations. C'est alors que le vin nouveau s'épanchera dans des outres neuves, c'est-à-dire que la ferveur de l'Esprit Saint remplira les cœurs de ces hommes tout spirituels. Donc l'outre nouvelle représente, si vous voulez, l'âme qui arrive en voie unitive, l'âme qui peut s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle est complètement purifiée. Vous voyez ? Et donc il faut que l'âme soit préparée à recevoir ces grâces. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ dit, si je mets le vin nouveau de la grâce dans des outres qui sont vieilles, le vin nouveau va faire éclater les vieilles outres. Et donc à outre nouvelle doit correspondre un vin nouveau, et ce vin nouveau, ce sont les grâces que le bon Dieu nous donne jour après jour pour nous aider à rester en état de grâce. Donc ces paroles du Sauveur signifie encore que celui qui enseigne doit prendre garde de ne pas confier à une âme qui reste plongée dans ses anciennes iniquités les secrets des mystères nouveaux. Donc on ne jette pas les perles devant les pourceaux. Avant d'être capable de digérer ce vin nouveau qui est représenté par, qui représente la grâce, eh bien il faut être coupé de nos anciennes iniquités, donc être coupé du péché. Et les pères précisent que ce vêtement nouveau signifie les bonnes œuvres extérieures. Le vin nouveau figure la ferveur de la foi, l'espérance et la charité qui réforment notre intérieur. Donc, la foi, l'espérance et la charité sont représentées par ce vin nouveau. Ce vin nouveau qui va réjouir le cœur de l'homme, parce que ce vin nouveau correspond à la grâce sanctifiante. Donc malheur à nous si nous conservons des outres vieilles. Les outres vieilles, elles vont éclater parce qu'elles n'ont pas été suffisamment préparées pour recevoir la grâce sanctifiante. Et donc à chaque fois, en quelque sorte, on peut expliquer comme ça, à chaque fois que nous faisons une bonne confession, que nous récupérons l'état de grâce, mais en quelque sorte, le bon Dieu ne se contente pas de nous donner le vin nouveau, une grâce nouvelle, mais il va nous donner aussi une outre nouvelle, littéralement, pour pouvoir conserver et transporter avec nous en notre âme ce vin nouveau qui est la grâce sanctifiante. Donc ce n'est pas simplement la grâce qui est donnée, mais les moyens de la conserver. Donc deux choses, la grâce sanctifiante c'est le vin nouveau, le moyen de la conserver c'est l'outre. Donc il faut une outre neuve pour porter le vin nouveau. Et donc une fois que j'ai récupéré la grâce sanctifiante, je peux recevoir le vin nouveau, la grâce sanctifiante elle-même, mais le bon Dieu, dans sa miséricorde, va également me donner une autre nouvelle pour être sûr que le vin nouveau ne fait pas éclater les outres anciennes. Les outres anciennes, ça représente le passé. Cette vie du passé est terminée. Il faut maintenant porter une autre nouvelle. L'autre nouvelle, c'est l'âme qui a récupéré l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et à outre nouvelle doit correspondre un vin nouveau, la grâce sanctifiante. Bon, c'est un petit peu compliqué. Il y a des passages comme ça dans les évangiles qui peuvent être plus difficiles. Alors, je n'ai pas la prétention de savoir tout expliquer. J'essaie d'utiliser les textes des pères, mais il faut avouer que parfois même certains textes des pères sont eux-mêmes assez complexes. Je ne vous donne ici que la substantifique, la moelle, si vous voulez, des textes des pères. Les pères ont beaucoup, beaucoup écrit et je ne peux pas tout vous donner. Je suis allé chercher dans Cornelius à Lapide, dans la chaîne d'or de Saint Thomas, dans les livres du Père Thirier, justement cette moelle à vous donner, mais j'ai dû faire un tri. Nous avançons versets 18 à 22 du chapitre 2 de Saint Marc. Je me trompe de page, excusez-moi. Page 16, donc chapitre 2, versets 23 à 27. Il arriva encore que le Seigneur, passant le long des blés, un jour de sabbat, ses disciples se mirent chemin faisant à arracher les épis. Et les pharisiens lui disaient, « Voyez, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin qu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Comment il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiathar, il mangea les pains de proposition qui n'étaient permis qu'aux prêtres de manger et en donna à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Donc justement, les pharisiens étaient attachés à la lettre de la loi. Mais pas du tout, ils n'avaient absolument pas compris l'esprit de la loi. Si par exemple notre Seigneur Jésus-Christ ou la loi disait qu'il fallait garder sur son front les Écritures, eh bien les pharisiens allaient interpréter ça de façon purement matérielle. En fait, qu'est-ce que ça veut dire quand la loi nous dit, la loi ancienne disait qu'il fallait garder les Écritures dans son front? Ça veut dire tout simplement qu'il faut garder la présence de Dieu tout le temps devant nous, parce qu'il marche en notre présence. Eh bien, les pharisiens interprétaient ça de façon purement matérielle, prenaient des petits rouleaux de la loi, ils écrivaient des textes de la loi sur des petits rouleaux de parchemin et les plaquaient sur leur front en les tenant sur le front tout le temps par des bandelettes. Et c'est qu'on s'était cet état d'esprit qu'on appelle l'état d'esprit pharisaïque que notre Seigneur Jésus-Christ va se révolter. Et on verra même plus tard la tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ. On verra au chapitre 3. La tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ de voir l'aveuglement du cœur des pharisiens qui ne comprennent les choses que de façon purement matérielle. Par exemple, le jour du sabbat, le sabbat demandait à l'époque pour les juifs l'absence totale de travail physique, et donc les pharisiens se révoltent contre les apôtres tout simplement sous le prétexte qu'ils arrachent des épis. Et notre Seigneur Jésus-Christ essaie de la faire comprendre justement que les textes doivent être aussi compris de façon surnaturelle pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu, sinon ça ne sert à rien. Le sabbat donc est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Alors voyons un petit peu le commentaire des pères de l'Église, encore une fois Saint Bède le Vénérable, page 16 du Polycopie, au milieu de la page. Les disciples qui traversent ces champs couverts de moissons, ce sont les saints docteurs qui, pieusement affamés du salut des hommes et remplis d'une sollicitude toute apostolique, passent en revue les âmes qu'ils ont gagnées à la foi. Donc ces épis qui poussent et qui portent du fruit représentent les labeurs apostoliques faits par les saints docteurs. Donc les docteurs sont représentés, si vous voulez, par l'agriculteur qui a beaucoup travaillé pour semer, préparer le terrain, semer dans les sillons, la graine qui va lever, vérifier que cette graine lève normalement et qui attend justement que le sillon donne son fruit. Donc un épi rempli de grains qui est le symbole justement de la foi catholique unie à la vertu de charité. Mais pour cela, il faut arracher les épis. Donc les pères expliquent qu'arracher les épis, c'est arracher les hommes à toutes les intentions terrestres. Si je suis encore connecté avec la terre, l'épi sur pied est encore connecté à la terre, donc il faut arracher l'épi pour qu'il puisse donner son grain. Tant que l'épi est sur pied, connecté par les racines à la terre, il ne donne rien du tout. On ne peut pas utiliser ce grain. Le grain va tomber par terre et va pourrir. Et donc il faut arracher l'épi, battre l'épi pour pouvoir en tirer le grain, symbole de la grâce sanctifiante. Et donc, il faut arracher les épis, c'est-à-dire arracher les hommes aux intentions terrestres. Si nous gardons des intentions purement terrestres, purement humaines, eh bien, nous ne saurons pas, justement, nous détacher de toutes ces choses et nous serons incapables de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, la première condition, c'est se détacher des biens de ce monde. Pourquoi ? Parce que si le démon remplit nos affections de choses matérielles, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Le bon Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas avec les faux dieux, avec le monde. Donc les pères expliquent aussi que les apôtres vont donc couper, arracher les épis et les froisser dans leurs mains, dit le texte. Les froisser entre les mains, c'est dégager par l'exemple des vertus la pureté de l'âme de la concupiscence charnelle comme d'une sorte de paille légère. Donc on froisse la paille pour en faire sortir le grain. Le grain est gardé dans les silos et la paille est jetée au feu. Pour bien nous montrer justement que cette paille légère représente les intentions terrestres, la concupiscence charnelle, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil. Et donc il nous faut couper, enlever cette paille légère pour pouvoir accéder à la graine. Et enfin, manger le grain. Pour manger le grain, donc il y a plusieurs étapes, d'accord, on coupe l'épi, on arrache l'épi, on le froisse dans les mains pour en faire sortir la graine, et enfin on mange le grain. Et les pères expliquent, c'est avec l'épuration des vices, sous le souffle en quelque sorte de la prédication évangélique, être incorporé aux membres de l'Église. En mangeant le grain, on s'unit à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que le grain de blé représente très souvent la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie va nous permettre une incorporation comme membre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'Église catholique. Donc quelqu'un qui ne communie jamais, c'est quelqu'un qui va dépérir. N'oublions pas que l'Église, pour appartenir à l'Église, il y a un certain nombre de conditions. Il faut le baptême, bien sûr. Il faut la foi, la pratique de la foi, mais il faut l'usage des commandements. Donc, l'usage, pardon, des sacrements. Donc, quelqu'un qui ne communie jamais ne va pas nourrir son âme du sang, du corps, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ne sera pas incorporé à l'Église. Il sera un membre mourant de l'Église catholique. Donc l'évangéliste remarque fort à propos que les disciples précédaient leur maître lorsqu'ils agirent de la sorte, parce qu'il faut en effet que la parole du prédicateur précède et que la grâce venant à sa suite illumine de ses rayons célestes le cœur des auditeurs. Donc le prédicateur arrive, donc il va préparer le sillon, c'est l'ouvrier agricole, si vous voulez, l'agriculteur qui prépare le sillon, qui plante la graine, qui arrose la graine, qui protège la graine, ça c'est tout le travail du prédicateur. Et puis la grâce arrive. La grâce arrive, elle est représentée par ce grain de blé. Et la grâce ne va arriver que dans la mesure où le prédicateur a précédé l'arrivée de la grâce. Le grain, il va pas arriver tout seul. Le grain rempli, si vous voulez, l'épi rempli de grains, ne peut arriver à maturité que si l'agriculteur a fait son travail. De la même façon, il faut faire très attention que la parole du prédicateur précède l'arrivée de la grâce. Le rôle du prêtre, ce n'est pas simplement de donner les sacrements, c'est de donner les sacrements à quelqu'un, à des fidèles qui sont bien disposés pour les recevoir. Donc il faut la prédication. Et tout un ordre, si vous voulez, à suivre. Il faut d'abord que le prédicateur lui-même, par la prière et la pénitence, se connecte à notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir toutes les grâces dont il a besoin pour convertir le cœur de ses auditeurs. Donc première étape, c'est la prière et la pénitence. Deuxième étape, ce sera la prédication pour ouvrir le cœur des auditeurs et les amener à la foi. Et la troisième étape sera l'usage du sacrement de la Sainte Eucharistie. Sacrement de pénitence d'abord, puis sacrement de la Sainte Eucharistie. Vous voyez, il y a tout un travail de préparation qui se fait. Malheur aux prêtres qui prêchent sans avoir prié d'abord, sans avoir fait pénitence. C'est pour ça que l'Église, par exemple, demandait toujours aux prêtres, avant de prêcher, de s'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la prière et la pénitence. Notamment par la méditation, par la récitation du bréviaire, par la Sainte Messe, justement pour se remplir eux-mêmes du bon Dieu et après pouvoir le diffuser aux autres. Malheur au prêtre qui veut être un canal avant d'être un réservoir, disait Saint Bernard. Donc le prêtre est d'abord un réservoir. Il se remplit du bon Dieu par la prière et la pénitence. Une fois que le réservoir est plein, à ce moment-là on peut connecter le tuyau d'arrosage à ce réservoir et le prêtre à pouvoir à ce moment-là utiliser le tuyau d'arrosage pour transvaser toutes la réserve d'amour du bon Dieu qu'il a dans son réservoir, et transvaser cet amour du bon Dieu du réservoir au cœur de ceux qui l'écoutent. Et donc d'abord prière et pénitence, puis la prédication, et enfin l'usage des sacrements, et pas l'inverse. Dans l'Église moderne, le Vatican II, on voit bien, c'est une des raisons de catastrophe de l'Église du Vatican II, mais c'est qu'ils inversent les choses. Il considère que le plus important, c'est de donner les sacrements. Mais il ne cherche pas à préparer les gens à recevoir ces sacrements. Donc il commence par les sacrements, puis vient la prédication, puis vient la préparation de la prédication, à savoir la prière et la pénitence. La prière et la pénitence arrivent en dernier. Alors que la prière et la pénitence devraient précéder ces choses-là, précéder le travail de la grâce. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui peuvent mettre la main dessus, les ouvrages du Père Emmanuel, du Ménil Saint-Loup, sur ce sujet. Il y a des choses magnifiques dans ces ouvrages. Entre autres, dans un petit opuscule du Père Emmanuel qui s'appelle le Traité du ministère ecclésiastique. Bon, c'est plus fait pour les prêtres, mais je pense que même les laïcs peuvent en tirer beaucoup, beaucoup de choses. Et il explique très bien, justement, tout ça, l'importance de la vie surnaturelle, la vie de prière, la vie de pénitence du prêtre avant qu'il ne prêche. Je vais vous donner les titres de ces chapitres pour vous aider à comprendre. Vous voyez, donc il va d'abord expliquer l'origine du ministère, le ministère sacerdotal dans les apôtres, les fonctions du ministère, et ensuite il va parler de ces trois fonctions principales. D'abord, la première fonction du ministère, dit-il, du ministère du prêtre, c'est la prière. Prière et pénitence, il unit les deux choses. Deuxième fonction du ministère, dit-il, la prédication. Troisième fonction du ministère, les sacrements. Donc le ministère est un ministère, d'abord un ministère intérieur. Ensuite, il va montrer que ce ministère peut être dénaturé d'abord dans la vie de prière, puis dans la prédication, puis dans l'administration des sacrements. Alors, il y a des choses qui sont vraiment splendide dans ces textes et qui explique bien, je crois, le texte que nous avons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Marc. Je vous lis un petit extrait de ce petit livret de traité du ministère ecclésiastique du Père Emmanuel, qui est très court, il fait 80 pages. Voilà ce qu'il dit ici, il y a des choses très belles. On dénature, il parlait au début du siècle, au début du XXe siècle, on dénature le ministère en ne prêchant pas du tout ou en méritant le nom que le Saint-Esprit a donné jadis à des pasteurs trop négligents qu'il appelait des chiens muets, canes muti, non valentes atrare, des chiens muets qui ne veulent pas aboyer. C'est Isaïe, chapitre 56, verset 10. Le Seigneur appelait de ce nom les sentinelles d'Israël, hommes aveugles et ignorants, chiens ne sachant pas aboyer, hommes dont les yeux n'étaient ouverts qu'à la vanité, hommes toujours endormis et n'aimant que leur rêve. Donc la parole de Dieu, dit-il, doit être prêchée avec l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne sera pas avec nous si nous ne sommes pas des hommes de prière. Il parle aux prêtres. Mais ceci fait voir comment, encore une fois, le ministère tout entier est en dépendance de la prière que Saint-Pierre a mise avant toute chose. Donc la prière passe avant tout le reste. Donc un prêtre, malheur au prêtre qui donne les sacrements sans avoir préparé sa fonction de prédicateur par la prière et la pénitence. Il va donner les sacrements à des gens qui ne sont pas préparés du tout à les recevoir. Ça va faire des catastrophes. J'ai mis en bas de la page 16 sur le polycopié dans quelques passages des pères qui montrent justement cette l'importance de cette prédication pour préparer les âmes. Donc cela parcourt la campagne avec le Seigneur, donc notre Seigneur Jésus-Christ passe le long des blés avec ses disciples. Il parcourt la campagne avec le Seigneur, ceux qui aiment à méditer les saintes écritures. Ils ont faim parce qu'ils désirent y trouver le pain de vie. C'est le jour du sabbat, lorsque dans le calme de leur âme, ils fuient le tumulte des pensées terrestres. C'est pour ça qu'ils quittent la ville pour aller dans la campagne, marcher le long des blés. Ils cueillent des épis, ils dégagent le grain de sa paille légère pour le rendre propre à devenir leur nourriture. Lorsque, s'emparant par la lecture des sentences de l'Écriture sainte, ils s'en nourrissent par la méditation et ne cessent de l'approfondir jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la moelle de l'amour divin. Vous voyez, donc on voit très bien la nécessité pour le prédicateur qui veut pénétrer dans les âmes, aider les âmes à se rapprocher du bon Dieu, il faut que lui-même soit rempli du bon Dieu. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Nemo dat quod non habet, disait saint Thomas d'Aquin. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si le prêtre ne prend pas soin justement de se remplir l'âme avec la prière et la pénitence, il va devenir un simple tuyau d'arrosage, mais sans être d'abord un réservoir. Si vous ne connectez pas le tuyau d'arrosage à un réservoir, eh bien, il n'y a pas d'avoir d'eau longtemps pour irriguer le jardin. Très vite, le jardin va se retrouver à sec. Il n'y aura plus d'arrosage parce que, justement, le tuyau d'arrosage n'a pas été connecté au réservoir. D'où la nécessité, l'absolue nécessité pour le prédicateur, d'abord de prier et de faire pénitence, puis de prêcher avant de donner les sacrements. Et lorsqu'il a fait tout ce travail, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, il peut rajouter, s'il a le temps, les bonnes œuvres. Mais d'abord la prière, la pénitence, puis la prédication, puis les sacrements, puis les bonnes œuvres. Et Mgr Lefebvre nous fait remarquer, en suivant le Père Emmanuel, il nous a souvent prêché sur les recueils du Père Emmanuel. Mgr Lefebvre expliquait que dans le Concile Vatican II, que depuis le Concile Vatican II, ils ont inversé complètement les choses. C'est plus numéro 1 la prière, numéro 2 la pénitence, numéro 3 la prédication, numéro 4 les sacrements, numéro 5 les bonnes œuvres. Ils ont tout inversé. Le plus important pour eux sont les bonnes œuvres. Puis il y aura les sacrements, puis la prédication, puis la pénitence, puis la prière en dernier lieu. Alors si on n'a pas le temps de tout faire, on abandonne les choses les moins importantes pour eux. Donc, si je suis l'esprit de Vatican II, le moins important, c'est la prière et la pénitence. Le plus important sont les bonnes œuvres. Donc, on garde les bonnes œuvres et on fait sauter la prière et la pénitence. Si au contraire, je suis catholique, dans l'Église catholique, le plus important, c'est la prière et la pénitence. Et le moins important, ce qui vient après, sont les bonnes œuvres. Et si je n'ai pas le temps de tout faire, je garde le plus important, la prière et la pénitence, et je laisse tomber les œuvres. Là, ce qu'il faut comprendre. Donc le Christ qui guérit le jour du sabbat, notre Seigneur Jésus-Christ on va voir ça avec le chapitre suivant, donc notre Seigneur va faire des miracles. Le Christ qui guérit le jour du sabbat représente ceux qui, étant maîtres de leur passion, peuvent guérir les pécheurs agités par leur passion et les mener vers la vertu. Par leurs exemples, ils les éloignent de la luxure de la chair comme des grains qui se séparent de leur enveloppe. Ils le font le jour du sabbat, car c'est dans l'espérance du repos futur qu'ils agissent maintenant. Et donc on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, part de choses purement matérielles comme un épi de blé ou une grappe de raisin et monte aux choses spirituelles. Cet épi de blé représente la nourriture spirituelle, puisque c'est le blé qui va devenir l'hostie, et puis l'hostie consacrée qui contient véritablement la substance du corps, du sang et de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grappe de raisin qui, pressée, va devenir du vin, et ce vin va être transformé en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avançons dans ces commentaires. Nous en sommes à la page 17. Et nous commençons maintenant le chapitre 3 de Saint Marc. Il reste un petit peu de temps, donc je vais commencer ce chapitre 3, versets 1 à 5, page 17 du polycopier, couvrant les chapitres 1 à 5 de Saint Marc. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et il s'y trouvait un homme qui avait une main desséchée. Il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait une main desséchée, « Levez-vous là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien, de faire du mal, de sauver la vie, de l'ôter? » Mais ils se taisaient. Alors promenant sur eux ses regards avec colère, attristé de l'aveuglement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étendez votre main. » Il l'étendit. Et sa main lui fut rendue saine. On voit très bien que les pharisiens vont commencer à préparer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à préparer sa condamnation, parce que justement, ils le voient apparemment violer la loi du sabbat. Parce que justement, ils s'arrêtent à l'aspect purement matériel du sabbat. Ils n'ont absolument pas compris que notre Seigneur Jésus-Christ est venu justement compléter en quelque sorte la loi de l'Ancien Testament. On passe d'une loi matérielle à une loi tout spirituelle. Et on voit la tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de l'aveuglement des pharisiens qui ne veulent pas justement se convertir parce qu'ils s'attachent à la lettre de la loi au lieu d'aller en profondeur. Ils s'attachent, si vous voulez, à la coque et ils ne considèrent pas l'amende. Encore une fois, on retrouve Saint Bède le Vénérable. Dans le sens mystique, cet homme dont la main est desséchée, les explications très belles là des pères, cet homme à la main desséchée, c'est-à-dire une main qui était devenue paralysée parce qu'elle n'était plus alimentée par le sang, tout simplement, donc les muscles avaient séché sur l'os, sur les os. Donc cet homme dont la main est desséchée, c'est le genre humain, incapable de produire aucune bonne œuvre, mais qui est guéri par la miséricorde du Seigneur. Pourquoi? Parce que la main, c'est par la main que nous faisons, par les mains que nous pratiquons les bonnes œuvres. Donc celui qui a la main desséchée ne peut pas faire d'œuvre, ne peut pas travailler avec ses mains puisque sa main ne fonctionne plus. Et donc celui qui a la main desséchée, c'est l'homme incapable de faire des bonnes œuvres. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par l'exercice de sa miséricorde, va rendre la vie à cette main et donc va de nouveau permettre que cet homme, cette âme, puisse pratiquer les bonnes œuvres. C'est le genre humain dont la main s'est desséchée pour avoir cueilli le fruit défendu dans la personne de notre premier père. Ça, c'est une autre explication donnée par les pères. Donc, cette main qui se tend vers le fruit défendu, c'est la main d'Adam qui désobéit au bon Dieu, qui avait dit, tu ne toucheras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi, trompés par le démon. Si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, cette main d'Adam qui se tend vers le fruit défendu va être desséché, dans le sens que la vie spirituelle qui était dans l'âme d'Adam et Ève va complètement disparaître. Ils vont perdre la grâce sanctifiante, ils vont perdre même l'usage de leur liberté, et leur main va devenir complètement desséchée, dans le sens qu'ils ne seront plus capables de recevoir la grâce du bon Dieu. Ils vont donc être renvoyés du paradis pendant des millénaires. Donc cette main qui se dessèche représente le genre humain qui désobéit à la loi du bon Dieu. La grâce du Rédempteur, qui au contraire étend sur l'arbre de la croix ses mains innocentes, lui a rendu la sève des bonnes œuvres, sa vigueur première. C'est très beau ces textes des pères. Donc puisque c'est par la main que nous avons péché, c'est en voulant prendre le fruit défendu que nous avons perdu la grâce sanctifiante, donc perdu la vie spirituelle de notre âme. Donc cette même main qui a servi au pécheur a offensé le bon Dieu, le bon Dieu va utiliser ses propres mains pour les faire crucifié sur la croix, et par cette révélation des deux mains de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du calvaire, eh bien, il va rendre vie au pécheur qui s'est détaché de la loi divine. Et donc, il va rendre en quelque sorte la sève des bonnes œuvres et la vigueur première à ses mains pour qu'elle puisse de nouveau servir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est crucifié sur la croix pour nous rendre notre liberté perdue, pour nous rendre la grâce sanctifiante que nous avions perdue en la personne d'Adam, au premier péché, le péché d'Adam et Ève. D'autres commentaires des pères qui sont encore très beaux. C'est dans la synagogue que nous apparaît cette main desséchée, car c'est là où le don de la science est départi plus abondamment que se trouve aussi le danger plus grave d'une faute inexcusable. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ fait allusion à l'orgueil des pharisiens. L'orgueil des pharisiens, justement, qui se contente, si vous voulez, d'une interprétation purement rigoriste du texte de la loi, purement matériel du texte de la loi, qui sont incapables de s'élever de ce texte matériel de la loi à notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes de la loi de l'Ancien Testament annoncent notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils devaient être utilisés pour monter vers notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont refusé ce pont, en quelque sorte, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui fait que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va arriver, malgré le fait qu'il ait prouvé sa divinité par l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament et par tous ces miracles qu'il a accomplis devant tous les pharisiens, et bien malgré cela, ils vont le refuser. Et au lieu de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, comme ils auraient dû le faire, ils vont le crucifier. Ils ne vont pas justement réussir ce passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. En croyant avoir tout sauvé, ils ont tout perdu. Et ils vont se retrouver, justement, avec une main desséchée, c'est-à-dire que la sève de la grâce sanctifiante leur est retirée, et leur corps va... L'Église juive, qui était pourtant la véritable Église dans l'Ancien Testament, va se dénaturer complètement parce qu'ils ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Le rideau du Temple va se déchirer, et ce passage... De l'Ancien Testament au Nouveau Testament ne va pas être pris par les pharisiens, justement les pharisiens juifs, qui vont le refuser, qui vont rester dans l'Ancien Testament, et donc qui vont refuser le passage par la Passion à l'Église, si vous voulez, à l'Église catholique. Et donc ils vont rater le coche, en quelque sorte, c'est terrible. Ils sont restés en arrière. Et ils attendent toujours notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est déjà venu. Donc, le Dieu qu'adore les Juifs aujourd'hui n'est pas le vrai Dieu, parce que justement, ils ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres interprétations, cette fois-ci Saint Jérôme, page 17. L'infirmité de cet homme représente les avares, qui, pouvant donner, aiment mieux recevoir, préférant la rapine aux largesses que l'on invite à étendre les mains à qui l'on semble dire que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt, et qu'il exerce ses mains à une utile industrie, afin d'avoir de quoi assister ceux qui sont dans le besoin. De Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Donc, la main desséchée, c'est aussi la main qui se recroqueville sur elle-même et qui refuse de donner les fruits de la passion à ceux qui les demandent. Donc, c'est là surtout une allusion au prêtre qui veut garder pour lui les dons qu'il a reçus et qui ne cherche même plus à les transmettre. Je vous ai déjà souvent expliqué dans plusieurs conférences, justement, que le drame des années 60, il est là. C'est que les catholiques des années 60 ont arrêté de transmettre aux générations futures ce qu'ils avaient reçu. Ils se sont arrêtés à ce qu'ils avaient reçu, ils n'ont pas voulu transmettre. Ne transmettant plus, eh bien, leur vie spirituelle s'est complètement desséchée. Leur main s'est desséchée parce qu'ils ne voulaient plus transmettre aux générations futures, à leurs enfants, ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes de leur père. Et donc tout va se dessécher. Et l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique complètement desséchée. C'est l'Église catholique qui n'a plus la sève de la grâce sanctifiante. Et donc, il va devenir une espèce de, c'est comme si vous voulez, une branche d'arbre qui a été coupée, un serment de vigne qui a été coupé du cep, qui n'a plus la sève qui va lui apporter la vie, qui va mourir, parce qu'elle n'a plus justement ce contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec le cep lui-même. Et c'est vraiment ça, pour moi, l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique desséchée. Il manque l'âme. Il reste corps, mais il n'y a plus d'âme. Alors, il faut, bien cher frère, se protéger, comprendre la nécessité pour nous de la prière et de la pénitence pour arriver à tenir le coup et avoir ce contact avec notre Seigneur Jésus-Christ qui va vivifier le serment. Et si le serment est en vie, alors il va donner des feuilles, puis des fleurs, puis du fruit. Et de ce fruit, la grâce, la grappe, en quelque sorte, ce fruit va ensuite être pétri, être malaxé, ce symbole de la passion, pour donner le vin nouveau, qui est symbole de la grâce sanctifiante, qui vient justement de la passion de notre Seigneur. C'est comme ça qu'expliquent les pères. Donc, la main qui ne s'exerce plus aux œuvres coupables, qui ne s'exerce plus qu'aux œuvres coupables, se dessèche et devient impuissante à opérer le bien. Mais si elle est de nouveau réunie au cep, par l'intermédiaire du sacrement de pénitence, surtout, eh bien, elle va retrouver à ce moment-là sa vigueur. C'est voilà pourquoi Jésus-Christ dit levez-vous, c'est-à-dire sortez du péché, tenez-vous là au milieu, et alors sa vertu ne péchera ni par défaut ni par exagération. Vous voyez? Le Christ était donc vraiment un homme, avec toutes les passions et toutes les affections, comme la couleur, colère ou la douleur, telles qu'elles existent chez tous les hommes, mais parfaitement soumises à la raison. Donc notre Seigneur avait des passions, strictement parlant, mais il avait des passions parfaitement régulées par l'usage de la raison. Pourquoi? Parce que les passions étaient au service de la volonté et de l'intelligence de notre Seigneur. Au contraire, nous, à cause du péché originel, nous avons introduit une révolution, d'une part entre l'intelligence et Dieu, d'autre part entre la volonté et l'intelligence, et d'autre part, enfin, entre les passions et la volonté. Les passions n'étant plus sous contrôle de la volonté n'étant plus sous contrôle de l'intelligence et l'intelligence sous contrôle de Dieu, il y a une révolte qui s'est introduite dans l'édifice intellectuel et spirituel de l'homme. Et donc, cette révolte va entraîner le fait que les passions vont devenir comme un animal fou, si vous voulez, comme un taureau furieux, comme un étalon, si vous voulez, qu'on ne peut plus contrôler parce qu'on a oublié de mettre dans sa bouche le mort pour pouvoir le contrôler. Donc il n'y a pas de mort, il n'y a pas de reine, on ne peut pas le contrôler. Et on est assis sur cet étalon qui va évidemment envoyer par une ruade le cavalier qui va tomber les quatre fers en l'air parce que justement, il n'est incapable de dominer ses passions. Les gens qui ne savent plus dominer leurs passions sont des gens qui sont incapables de rester en état de grâce. Donc, s'il y a quelques notes intéressantes des pères de l'Église, donc en bas de la page 17, le Christ, donc, pour bien montrer donc, voilà, l'explication, donc, il montre que chez le Christ en tant qu'homme, les passions étaient parfaitement soumises à la raison. Donc la colère est chez nous une passion, mais elle est une action chez le Christ. Elle monte spontanément chez nous, mais chez le Christ, elle était volontaire. Chez nous, la colère trouble les autres facultés du corps et de l'âme et ne peut être contrôlée comme nous le voulons, mais chez le Christ, la colère agit selon sa volonté, sans rien troubler ni déranger, et cesse sitôt qu'il le veut. Donc, il faut bien, vous voyez, bien analyser ces commentaires des pères de l'Église, qui nous montrent bien justement comment, si nous sommes en état de grâce, eh bien, la grâce sanctifiante va nous donner la possibilité, le privilège de savoir soumettre nos passions à la volonté du bon Dieu. Pour ça que, même quand il y avait de la colère chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'était toujours une sainte colère. On le voit très bien, par exemple, on va le voir ici, donc on voit au verset 5 de ce chapitre 3 de Saint-Marc, promenant sur eux ses regards avec colère, attristé de l'aveuglement de leur cœur, il dit à l'homme, étendez votre main, il va le guérir. Cette colère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une vraie colère, la bonne colère, c'est la sainte colère que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait seul avoir. Nous, la colère chez nous, elle est rarement sainte, même pas du tout. C'est très rare qu'il y ait une colère sainte chez un catholique, malheureusement. Justement parce que les passions se révoltent contre notre Seigneur Jésus-Christ, les colères sont en général chez nous, non pas saintes, mais tout à fait déplacées, et montrent justement que nous ne possédons pas le contrôle de nos passions. Mais chez notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est Dieu et homme, donc à cause de l'union parfaite entre l'humanité parfaitement soumise à la divinité, la colère de notre Seigneur Jésus-Christ n'était jamais pécaminose, bien sûr. C'était une sainte colère à chaque fois. Avançons un petit peu avec page 18, chapitre 3 de Saint Marc, versets 6 à 12. Les pharisiens étant sortis, tinrent aussitôt conseil contre lui avec les Hérodiens sur les moyens de le perdre. Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une foule nombreuse le suivit, de la Galilée, de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant appris ce qu'il faisait, vinrent un grand nombre auprès de lui. Et il dit à ses disciples de lui tenir prête une barque, à cause de la foule, pour qu'il n'en fût pas accablé. Car comme il en guérissait beaucoup, tous ceux qui avaient reçu quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et criaient en disant « Vous êtes le Fils de Dieu » et il leur défendait avec de sévères menaces de le faire connaître. Et on voit quelque chose d'épouvantable, dire « Notre Seigneur Jésus-Christ vient de faire un miracle. » Il vient de guérir la main de cet homme qui avait une main desséchée. Il se trouvait donc un homme dans la synagogue qui avait une main desséchée. Notre Seigneur Jésus-Christ le guérit. Étendez votre main. Il l'étendit et sa main fut rendue saine. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de faire un miracle. Et pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette phrase terrible, chapitre 3, verset 6 de Saint Marc, les pharisiens étant sortis, tinrent aussitôt conseil contre lui avec les Hérodiens sur le moyen de le perdre. Aussitôt, il n'y a pas eu d'attente. Au lieu d'ouvrir leurs yeux devant les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ et se dire, puisque cet homme fait de tels miracles, il a des pouvoirs divins. Et donc nous devons devenir ses disciples. Eh bien, au lieu de comprendre ces choses-là, ils utilisent les miracles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ pour se révolter contre la divinité. Donc un miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, soit peut obtenir la conversion, c'était le cas des apôtres, par exemple, qui sont convertis en voyant les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans certains cas, les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, s'ils se heurtent, se butent à l'orgueil de l'homme, peuvent entraîner un désir de perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le cas des pharisiens. C'est ça qui est terrible, vous voyez. Parfois, on entend des gens nous dire, mais pourquoi est-ce que le bon Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui? Si le bon Dieu faisait des grands miracles, on pourrait convertir tout le monde. Regardez les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait ses miracles devant des milliers de pharisiens et ils ne se sont pas convertis pour autant. Même si quelqu'un venait des morts pour faire des miracles, et nous expliquer ce qui se passe de l'autre côté de la mort, eh bien, on ne se convertirait pas. Parce que l'homme tombé dans l'orgueil est incapable d'ouvrir son cœur à la grâce. L'orgueil dessèche la grâce, empêche la grâce de revenir, parce que l'orgueil ne fait pas que dessécher la grâce, mais empêche la connexion de la grâce avec le cep, si vous voulez, et ce cep, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'orgueil interdit toute influence divine sur l'âme. C'est ça qui est absolument terrible. Et donc il faut vraiment demander cette grâce de l'humilité pour ne pas nous faire contaminer par cet orgueil du monde moderne. Regardez les pharisiens, donc ils viennent d'assister à un miracle. Première chose qu'ils font, aussitôt, ils prennent conseil pour tuer notre Seigneur Jésus-Christ, tuer leur propre bienfaiteur, tuer leur Père, tuer seul celui qui est leur rédempteur et leur créateur et leur rédempteur. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous commettons une faute grave. Donc il faut, mes bien chers frères, demander avec grande humilité cette grâce de la... avec grande humilité cette grâce de savoir conserver le contact avec notre Seigneur. Ça se fait justement par cette vertu d'humilité. Le grand obstacle à la conversion, c'est toujours le même. Le grand obstacle à la conversion, eh bien, c'est l'orgueil. Donc, demandons la vertu d'humilité. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.